Alors aujourd'hui, on va vous parler d'argent. Différent, il y a des trois choses dont il ne faut pas parler à la table, l'argent, la politique, la religion, là, on n'est pas à table. Effectivement, il y a bien là, il y a très 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 longtemps, je vous parlais d'argent ici quand j'étais trésorier de cette assemblée, mais là je ne suis pas venu vous parler de la trésorerie des Baptistes. Mais on va parler de la parabole des talents. Que tout le monde connaît, tout le monde connaît la parole du talent. Donc, c'est vrai que quand on est français, quand on parle français, déjà parler d'argent, il y a un homonyme. Parce que l'argent, c'est à la fois un métal précieux, connu pour ses propriétés antiseptiques ou conductrices, c'est un métal précieux, et c'est à la fois une monnaie, c'est-à-dire un moyen d'échange, une réserve de valeur. Donc argent, ce sont deux notions différentes qui se rejoignent, mais ce n'est pas la même chose. De même que talent, aujourd'hui, toutes les boîtes d'intérim recrutent des talents. On ne recherche plus de plombier, on ne cherche plus de maçon, on recrute des talents maintenant. Donc on demande, en fait, le talent, on recherche des compétences. Mais talent, c'est également un mot qui signifie une mesure de poids. Et dans la parabole des talents, c'est bien cette chose-là dont on parle. Et, alors, effectivement. Ça peut prêter à la confusion, mais mettons bien les choses à leur place. Juste, je me suis amusé à raconter, enfin, d'après mon logiciel, la Bible Online, le mot argent est présent 389 fois dans la Bible. Mine de rien. Donc c'est quand même important. Donc pour ça, on va prendre Matthieu 25. Alors Matthieu 25, la fameuse parabole des talents. Quand le Seigneur Jésus commence à expliquer aux gens, ça va bientôt être la fin des temps. Et il va se passer des choses. Vous allez entendre des guerres et des bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une autre, etc. Donc il commence à parler de la fin des temps, de ce qui va arriver. Après, si on prend Matthieu 25, le début, vous avez la parabole des 10 vierges, vous savez, qui attendent l'époux, et puis il y en a qui n'ont pas pris assez d'huile, et pour elles, dommage. Et puis après, il y a la parabole du bon serviteur et du mauvais serviteur. Qui se met à boire et à battre ses copains et tout. Et quand le maître rentre, ça se passe pas vraiment très bien pour lui. Donc, dans ces deux chapitres-là, on va retrouver la notion de veiller et prier, parce que le maître revient. Et quand il revient, c'est pas pour faire joli. Il a des choses en tête, il y a des plans pour nous. Alors, Matthieu 25, la fameuse parabole des talents.
Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur promit ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2, et au troisième 1 seul, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et y gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul, à la faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'ai gagné 5 autres talents. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
Donc cette parabole-là, on la retrouve également en Luc, c'est la parabole des mines. Hein, ça revient à peu près, c'est à peu près le même message. Mais j'ai préféré Matthieu, parce que Matthieu, vous connaissez son métier. À la base, qu'est-ce qu'il faisait Matthieu? Collecteur d'impôts. Il y en a parmi vous qui travaillent dans les impôts? Le droit. Donc enfin, c'est quelqu'un qui avait pour moi davantage l'habitude de palper de l'oseille, si vous me permettez l'expression. Hein. Le début, ça commence bien. La fin, ouais, quand on entend ça, c'est sûr, on dit, ça pique un peu, quoi. Donc, on va redécortiquer ça gentiment, et puis on va tâcher d'y voir clair. Donc, si je peux remettre le verset 14, voilà. Un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur remit ses biens. Okay. Donc imaginez, votre patron, il vous dit, toi, tu viens au bureau. Il ouvre le coffre-fort. Il prend tout l'argent qu'il y a dans le coffre-fort, il met ça sur la table, et tiens, c'est pour toi. C'est à peu près ce qui est dit là. Je ne sais pas si vous suivez là. Il remit ses biens. D'accord ? Alors, est-ce qu'il est marqué, il lui refait un contrat, il fait venir un notaire, un avocat ? Rien du tout. Tiens, voilà. Ça se passe aussi simplement que ça. Déjà, je ne sais pas si ça vous choque, non ? Vous imaginez la scène ? Ça vous est arrivé que... Non, bah, c'est ce qui se passe. Là. Verset 15. Alors, il donna. Donna, du verbe donner. 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, selon ses capacités. Quand on dit ça, on dit, ouais, bah, c'est bien, 5, 3. Ça fait 8 talents, ok. Ils n'ont pas tous pareil, ok. Et pourquoi? Alors déjà, est-ce que vous avez une notion de ce que c'est un talent? Talent, aujourd'hui, c'est 1000 onces. Donc ça fait 31 kilos, virgule quelque chose. À l'époque, bon, c'était à peu près dans ces eaux-là, c'était entre 25 et 30 kilos. Parce que c'était la quantité qu'on pouvait porter, comme aujourd'hui on met des sacs de ciment ou de farine de 25 kilos. Donc 25 kilos d'argent. Je ne sais pas si vous voyez déjà ce que ça fait. Oui. Sur un plan financier, un talent, c'était 6000 deniers. Un denier, c'était quoi? Si vous reprenez la parabole des ouvriers de la 11e heure, un denier, c'est ce qu'on donnait à un ouvrier comme salaire journalier. Donc si vous faites 6000 deniers, vous divisez par 305 jours, vous enlevez les jours fériés, les 35 heures, ce que vous voulez, à l'époque, il n'y en avait pas, c'est à peu près comme si un talent, votre patron vous remet l'équivalent de 17 ans de votre salaire. D'accord ? Donc c'est pas une petite somme. Et bien, la première fois que j'ai lu ça, bon, okay, il y a un talent, 5 talents, mais c'est énorme, c'est gigantesque. C'est votre patron qui vous dit, écoute, je pars en voyage, je vais voir des fournisseurs, je vais faire un peu de sourcing. Tiens, bah, je te donne, toi, 17 ans de paye, donc l'autre 34 ans, et celui qui a 5 talents, je sais pas comment ça fait, je te paye toi, ton fils et ton petit-fils, grosso modo, tu as de quoi vivre pour 3 générations. C'est exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce cadeau que le maître fait. Il a quand même vachement confiance. Il confie tout ça, il donne sans contrat, sans rien à ses employés. Est-ce que vous voyez un peu le... Oui, non, ça, j'ai l'air de vous impacter là. Mais pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors après, par contre, pourquoi il ne donne pas la même chose à tout le monde? C'est pas juste. C'est pas forcément juste au sens... On peut le voir, mais le maître, il connaît ses serviteurs, il connaît ses salariés. Il va dire, ouais, écoute, voilà, par exemple, là, GG, bon, il a quand même 10 ans de boîte. Il s'y connaît, à mon avis. Bon, lui, je peux quand même lui confier ça, je crois qu'il va y arriver. Là, par contre, Albert, ouais, bon, il a un petit peu de bouteille. Tu mets trop de moyens, trop d'objectifs. Il va peut-être avoir du mal à y arriver. Je vais mettre que deux. Et puis, bah, Lulu, il vient d'arriver, lui, pauvre petit gars. Mais j'ai quand même confiance en lui, je vais quand même lui confier un talent parce que je crois qu'il va pouvoir faire quelque chose avec. Oui, c'est comment il raisonne le maître. Donc c'est pas forcément que Lulu il aime moins que j'ai, mais c'est juste que je dis voilà, je vais pas trop lui mettre la pression. Dieu connaît bien ses brebis, il nous a fait tous comme il a voulu, selon son plan lui, on est tous différents, donc il ne donne pas forcément les mêmes charges à tout le monde. Ok ? Allez, mets-moi le verset 17 s'il te plaît. Alors là, ouais, quand on regarde l'histoire, aussitôt, voilà, oh là. Ben non, il y a des entrepreneurs parmi vous. Est-ce qu'il y a des gens, je ne sais pas, qui bossent dans la compta, qui bossent dans la gestion, dans la banque? Non, oui. Bon, si je vous donne, alors, grosso modo, là, il a mis 8 talents sur la table. 8 talents, au cours d'aujourd'hui, ça fait 250 000 euros. Donc, c'est-à-dire que la société, l'entreprise du maître, il avait une trésorerie net en cash de 250 000 euros. D'accord ? Alors c'est quand même pas tout le monde, moi, j'ai jamais eu ça dans mes entreprises. il a distribué à ses salariés, et puis il en gagnait à 5 autres. Vous imaginez, donc il a reçu 150 000 euros, celui qui en a eu 5. Et il est fit valoir. Alors, fit valoir, c'est un peu la traduction qu'on voit. Dans d'autres traductions, ils ont fait du trafic. Quand on regarde dans les Bibles en anglais ou en allemand, ils parlent de faire du trading ou de handle. Donc, en clair, ils ont fait ce que leur maître faisait, du commerce. Parce que c'est pas parce que si je vous donne, moi, 150 000 euros, je lui reviens dans, je sais pas, 3-4 ans, et vous me refaites la même somme, s'il vous plaît. Si vous y arrivez, déjà, c'est que champion. C'est pas du tout évident. Oui, c'est versé, ça a l'air de rien quand on lit ça. Bah ouais. Bah, sauf que c'est énorme. Pour doubler une mise financière, même en quelques années, on ne sait pas combien de temps ça a duré, ça représente quand même un effort énorme. Ok, jusque-là ? Donc en fait, bah, les serviteurs, ils ont fait ce qu'ils ont toujours vu leur maître faire, c'est faire du commerce, prendre des risques et faire fructifier. On va voir pourquoi après ils font ça. Parce que c'est vrai qu'en tant que Français, normal, moyen, on a toujours dit, oh là, le pognon, attention, hein. Il ne faut pas toucher à ça, il y a des risques, etc. Sauf que là, ce n'est pas du tout ce qu'on vous dit là, dans cette parabole. Ça va, Bernard, je ne suis pas trop cash là.
Tu me le dis.
Tu peux mettre le verset d'après. Alors, donc sur les trois, bon, il y en a deux qui font le boulot, super. Et puis il y en a un qui, bah, il ne sait pas trop quoi faire avec. Fait un trou, hop, t'es vu ni connu. Moi, tu sais, je ne le sens pas. On ne sait pas ce qui s'est passé en sa tête, on va en reparler après, mais grosso modo, il n'a pas fait comme les autres, c'est sûr. Et ce n'est pas parce qu'on peut dire, ouais, il n'a eu qu'un talent. Un talent, 17 ans de paye. Okay, il n'y a pas d'excuse, je suis désolé. On va dire qu'on s'est moqué de lui parce qu'il n'a eu qu'un talent, c'est énorme. Donc en fait, il n'a rien fait avec. Il ne s'est pas approprié ce que son maître lui a donné. Il dit, hop, ça, c'est pas pour moi, je cache. Alors après, oui, juste un truc. Parce qu'on peut se dire, ouais, forcément, il y en a qui ont plus que les autres, donc c'est normal. Non. N'oubliez pas, en Luc, il est marqué, il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. De celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. Donc c'est pas le fait du prince, c'est pas parce qu'il chouchou qu'on va y en avoir plus que... Non. D'accord ? Donc jusque-là, tout se passe bien. Et puis, alors là... Là, on va parler politique. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes enfants de Dieu. Oui, non, vous êtes baptisés, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes disciples de Christ, vous êtes serviteurs du Christ. Oui, non ? Ok. Donc, vous n'êtes pas en République française. On vit dans un monde qui s'appelle la France, la République française, mais dans la vraie vie, vous êtes sujet du royaume de Dieu. Ok ? Donc, la politique économique du royaume de Dieu, ce n'est pas pareil qu'à Bercy. Ça n'a rien à voir. Si on prend déjà effectivement, dès le départ, le Créateur, il a fait le ciel et la terre, il a fait l'homme et la femme, il est béni et après il a dit quoi ? Croissez et multipliez-vous. Donc déjà, remplissez la terre. Donc dès le départ, on a une notion de croissance. Continue après. Si on prend Abraham, avant qu'il soit appelé Abraham, déjà il y a eu une famine. Il avait tout laissé tomber, il a suivi, il s'est retrouvé en Égypte, ça s'est mal passé avec le pharaon. Et en sortant de ça, après la sortie de crise, Abraham était très riche en troupeaux et en or. Donc Abraham a fait ce que le Seigneur lui a ordonné et le Seigneur l'a béni. Si on prend quelques années plus tard, Isaac, vous avez entendu parler d'Isaac. Pareil, il y a eu une famine. Il va chez le pharaon, il va chez un autre roi, ça ne s'est pas très bien passé. Sortie de crise. Le Seigneur dit, tu vas là, tu vas semer là-bas. Ok. Isaac, il obéit. Et là, il y en a qui sont dans l'agriculture, là. Ouais. Il récolta au centuple. C'est une très mauvaise récolte de blé, par exemple. Là, il a récolté au centuple. Donc, quand le Seigneur vous dit, fais ce que je te dis, ça va bien se passer, et qu'on obéit, la moralité, c'est que le Seigneur bénit. Et il nous dit que voilà... Il finit par être vraiment très riche. Et ça peut choquer quand on entend ça. Sauf que voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors pourquoi c'était pas pour simplement voir que Isaac s'en mette plein les poches et fasse le kéké sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas pour ça. C'est qu'après, qu'est-ce qui est marqué en Deutéronome ? Oui, c'est en fait, voilà. La politique économique du royaume, c'est pas on est à 140% d'endettement. c'est « Oui, le Seigneur vous bénira comme il l'a promis ». Donc c'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas une promesse d'élection ou de campagne électorale. « Vous prêterez de l'argent à beaucoup d'autres peuples ». C'est pour ça que le Seigneur a demandé à son peuple de s'enrichir. C'était pour qu'il puisse prêter aux autres. D'accord ? Et non pas l'inverse. Vous n'aurez besoin de demander des prêts à personne. Vous serez les maîtres de beaucoup de peuples, mais personne ne sera votre maître. Ça, c'est la politique économique du royaume de Dieu. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Non, c'est pas forcément... Ça a du mal à rentrer. Sauf que c'est écrit comme ça. OK ? Et puis après, tu peux... Deutéronome 28.8. Voilà. Le Seigneur ordonnera... Que la bénédiction soit avec toi et dans tes granges et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Donc ce n'est pas peut-être que ça va bien se passer, c'est le Seigneur ordonnera. Et quand le Seigneur ordonne, je ne sais pas si vous avez remarqué, il vaut mieux faire comme il dit. Hein. Pourquoi en fait on retrouve cette idée de multiplier? Prenez l'histoire des pains et des poissons. Comment faire? On n'a pas de pognon, Seigneur. T'as vu tout ce monde? Qu'est-ce que tu veux qu'on leur donne à manger? Le Seigneur est beaucoup plus fort en multiplication quand nous, on raisonne en addition. Le Seigneur, il multiplie. C'est comme ça que ça se passe. Okay. Sachant ça, on sait qu'il y a une corrélation entre l'obéissance et la bénédiction, c'est sûr. Dans Proverbe, vous savez, c'est le roi Salomon qui a écrit ça. Je crois que parmi tous les rois d'Israël, c'est un gars qui a eu un bilan financier assez convenable. Il dit quoi ? Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, la main des hommes actifs les rend riches. Donc quelque part, c'est pas reste là tant que ça se passe, hein. C'est bosse, produit quelque chose, croissez, multiplicez-vous. Je vous rappelle, on est dans le cadre de le référentiel du royaume de Dieu. Transposez pas ça à ce que vous vivez dans la vie professionnelle. Mais aujourd'hui, ça se passe comme ça. Donc, ce qui explique que les deux premiers serviteurs, eux, ils avaient ça comme référentiel, donc ils ont fait selon la parole, sur le commandement de leur maître. Donc après, c'est là où on comprend mieux la suite. Et là, le maître revient. Super. Et les gars, qu'est-ce que vous avez fait là, hein? Donc, il leur fit rendre des comptes. Alors ça, c'est un truc on n'aime pas. Enfin, déjà, regardez même comment il s'appelait Adam. Hé, t'as fait quoi avec le fruit? Ah non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné à manger. Mais non, moi, je... Non. Donc, c'est déjà en nous depuis le début. Alors, dès qu'on parle de responsabilité individuelle, cette notion de responsabilité individuelle, elle est omniprésente dans la parole de Dieu. Mais on a généralement un petit peu de mal avec ça. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Vous êtes la lumière du monde. On ne met pas une lumière sous un boisseau, on la met en haut pour qu'elle éclaire, que votre lumière brille. Donc ce n'est pas toujours pareil pour vous briller sur les réseaux sociaux, non. Ce n'est pas pour vous enrichir personnellement, claquer le dollar, c'est pas ça. C'est qu'il voit vos belles œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. La notion, c'est-à-dire que sans faire des œuvres, s'enrichir, si c'est pour le Père qu'on le fait, c'est béni. Il faut savoir pour qui on fait les choses et comment. Mais là, le commandement, il est relativement clair, il est très clair. C'est à travers les œuvres que le Seigneur va vous confier, vous permettre de réaliser, qu'il va se glorifier. C'est comme ça que ça se passe. Donc, partant de là, qu'est-ce qui se passe? En fait, le Seigneur va revenir, il va avoir les premiers serviteurs qui vont lui dire « Tiens, tu m'as donné 5 talents, 125 kilos. Eh bien, je t'en donne 5. » Je dis qu'on avait 2, pareil. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit le maître? C'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Et après, c'est là qu'il faut capter. Tu m'as été fidèle en peu de choses. Peu de choses. Je t'ai donné 150 000 balles, c'est peu de choses. Là, maintenant, je vais te donner beaucoup. Non, mais vous imaginez, 5 talents, c'était peu de choses. Tu reviens, tu as 10 talents, ça fait 300 000 balles. C'est peu de choses, ça. Maintenant, je vais te donner beaucoup plus. Oui, on a chanté tout à l'heure, Dieu est grand. Mais quand on vous dit Dieu est grand, c'est qui les grands, quoi? Quand il dit, je vais vous donner beaucoup de choses. Si j'ai fait une récolte fois 100 à Isaac, parce qu'il m'a obéi, c'est que je sais de quoi je parle. Okay? Donc, cher, en fait, il faut prendre Dieu au sérieux. Si vous prenez Dieu au sérieux, vous allez voir que vous allez être surpris. Le message, c'est ça. C'est ça qu'il faut capter. Vous êtes surpris, mais bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Après, il y a le serviteur à un talent. Alors lui, déjà, il aurait pu venir devant son maître en disant, écoutez, patron, j'ai un peu loupé, quoi. Vous, patron, vous êtes un homme qui amasse, qui n'a pas vanné, vous êtes sévère, vous êtes méchant. Attends, les deux autres, ils n'ont pas dit ça. D'autres, ils ont fait ce qu'il a dit, puis ça s'est bien passé pour eux. Donc, pour moi, à mon avis, il n'a pas l'air aussi méchant que le troisième serviteur. Il commence par l'accuser tout de suite. Première défense, l'attaque. Bon, ok. Donc, puis après, il fait, ouais, j'ai eu peur. Et il commence à avouer ce qui s'est passé. Et je vais cacher ton talent. Tiens, prends ce qui est à toi. Donc ce qui est à toi, c'est vrai que c'est le Seigneur, quand il vous confie, tout appartient au Seigneur. Mais il ne s'est pas approprié ce que le Seigneur lui a donné. Il lui a redonné comme ça en vogue. Donc c'est sûr que le maître qui s'est dit, je vais lui faire confiance, j'ai comme lui confié une somme assez coquette, parce que je crois qu'il va en faire quelque chose. Le gars, il n'a rien fait. Donc forcément, le maître, il n'est pas content, quoi. Il ne se fatigue pas, il n'a pas essayé d'expliquer le pourquoi du comment. Alors comme ça, tu as dit que j'étais quelqu'un qui était méchant, qui n'était pas bien, limite je suis un voleur, quoi. C'est à peu près ça qu'il dit. Tu le ramasses ou tu n'as pas semé, quoi. Ou tu vas piquer l'argent chez les autres. C'est ce dont le serviteur accuse son maître. Bon, bah, admettons que ce soit comme ça, puisque effectivement je suis quelqu'un de pas bien. Bah, je suis désolé de te le dire, mais tu es un serviteur méchant, parce que là tu es en train de m'accuser, grave. Et paresseux, parce que, regarde les autres qu'ils ont fait, toi, t'as vu ce que t'as fait. Donc, je suis pas content. Moi, ça m'a toujours fait tilt. T'aurais pu au moins mettre ça à la banque, quoi. Il y en a qui travaillent dans la banque, là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait déjà des banques. C'est un très, très vieux métier, a priori, le métier de banquier. Et que souvent, on a beaucoup cette notion que les Juifs avaient inventé le prêt à taux zéro. Et c'est vrai que normalement, quand on se prêtait de l'argent entre juifs, on se faisait pas payer d'intérêt. Mais entre nous, simplement. Après, les autres, ils payaient. Et ils payaient un intérêt qui est le coût du risque. Donc ça existe également depuis très très longtemps. Donc tu aurais pu au moins faire ça, quoi. Ben, tu n'as même pas été capable de faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Désolé, quoi. Un serviteur comme ça, je t'ai fait confiance, mais... En plus, j'ai perdu de l'argent, parce qu'entre-temps, peut-être que je ne sais pas de combien était l'inflation à l'époque, mais moi, j'aurais pu juste récupérer, ne serait-ce que, je sais pas, 2%, 3%. Quoi. Et sur un talent dit que ça faisait 30 000 euros. Sur quelques années, bon, moi, ça m'aurait payé l'essence. Quoi. Donc, et c'est là où ôtez donc le talent et vous le donnez à celui qui en a 10.
Oh non.
Attends. Je peux imaginer, moi, vous héritez de 100 000 balles. Allez, 100 000 euros, cet appartement. Là. Vous avez tout de suite des conseillers financiers qui vont venir vous voir. Attendez, tiens, moi, vous me confiez, vous allez voir, je vais vous faire fructifier ça. Ça va se faire tout seul. Et puis au bout de quelques années, qui fait, bah, tiens, c'est bon, je t'ai fait x2. Puis l'autre, ah bah ouais, tu comprends, il y a eu la crise de dollars, machin, j'ai rien foutu, je t'ai fait zéro. Vous faites quoi? Celui qui a fait zéro, on dit, attends, je vais investir auprès de celui qui a fait x2, oui ou non? Oui? Ben, c'est pareil. C'est peut-être dur à entendre, mais dans les réalités économiques, c'est à peu près comme ça. Et du coup, ben, le serviteur inutile, c'est un peu comme en Matthieu 25 au début, ou comme toutes les fois où les gens n'ont pas vraiment obéi, c'est dehors. Donc là, il y a quand même un avertissement sur la volonté du maître. Alors après, revenir un petit peu sur le serviteur à un talent. Pourquoi, à votre avis, Il n'a pas fait comme les deux autres. Après, les deux autres, c'était aussitôt. On leur donne les sous aussitôt, ils se mettent au bout. Ils ne cherchent pas à dire, attends, ouais, en ce moment, il y a la guerre en Irak, enfin, pour l'Irak, en, je ne sais plus. Il y a une guerre quelque part, il y a toujours une guerre quelque part. En ce moment, ouais, il y a des tensions politiques, il y a ci, il y a ça, j'ai peut-être à attendre. Et ils y vont. Donc peut-être qu'à mon avis, le premier, il a commencé à se poser beaucoup de questions. Et là, il y a quelqu'un qui est venu lui donner des pensées qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que le Seigneur voulait lui dire. Ouais, Dieu a-t-il dit qu'il te bénira, hein? Dieu a-t-il dit que... Rapide dans la Genèse. Première qualité de l'ennemi, c'est le mensonge. Il est menteur et père du mensonge. Et il a commencé à dire, à lui mettre le doute. Et qu'est-ce qu'il a fait, le serviteur, à votre avis? Ben, il a ouais, peut-être qu'il a raison. Puis le maître, il est parti. Et puis bon, ouais, si ça se passe mal. Donc il a commencé à douter, à remettre en cause des promesses de son maître. Et il s'est retrouvé dans le piège du diable qui est pour voler, tuer et détruire. C'est tout ce qui est arrivé. Alors que, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, non, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Amen. Donc là, ben, à mon avis, c'est là où le serviteur a un talent, il s'est un petit peu laissé polluer l'esprit, quoi. Et si ça lui est arrivé à lui, dites-vous que ça peut vous arriver aussi. Parce que l'ennemi, il est toujours aussi bon au niveau mensonge. Ah ouais. Quand il vous dit, attends, mais toi, ouais. Ouais, lui, d'accord, mais toi, hein. Je suis sûr que ça, quand vous avez des pensées comme ça, tout de suite, faites extrêmement attention. Parce que vous avez vu la suite, comment ça se passe. Et ça arrive en permanence. Donc, soyez très attentif à vos pensées. Au reste, frère, que tout ce qui est bon, honorable, etc., soit l'objet de vos pensées, c'est dans Philippiens 4. On va voir pourquoi les autres, ils ont fait du x2, pourquoi ils ont suivi la volonté du maître. Ils ont plutôt écouté... L'Esprit de Dieu, l'autre premier dit, ah ben j'ai eu peur. Ah ouais, c'est vrai, mais ça arrive d'avoir peur. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est pas un esprit de peur qui t'a donné, un esprit de force, d'amour. C'est quand t'aimes les autres, ça se passe bien. Un esprit de sagesse, donc même si on te conflit 5 talents, on va te donner la sagesse pour que tu fasses n'importe quoi avec. Pour me dire, ouais, mais moi, l'esprit, cet esprit, ouais. J'ai peut-être été baptisé il y a longtemps, mais je ne sais plus trop si vraiment le Saint-Esprit habite en moi. J'ai un doute, là. Bah, ça peut arriver. Jésus, il a remarqué que même dans ses apôtres, de temps en temps, ils avaient le doute. Et il leur dit, voilà, si mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, combien le Père donnera-t-il l'esprit à celui qui le demande? Donc, en clair, je ne sais pas trop si j'ai l'esprit. Ben, demande! Il te le donnera. Il donnera la dose que tu as besoin. Il fera 1 talent, 2 talents, 5 talents. Ça va se faire naturellement, mais demande-le. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas vraiment... C'est un peu comme dans la finance. Quand on regarde bien, c'est relativement simple. Il y a des référentiels, on les suit, puis ça se passe bien. Si on veut être comme les deux premiers serviteurs, donc être un bon serviteur. Le bon serviteur, ben, il fait ce que la volonté de son maître. Il faut déjà bien comprendre la volonté de son maître. Si je veux bien comprendre, capter quelle est la volonté de mon maître, il faut que je demande au Saint-Esprit qui me guide. Jusque là, vous me suivez? Ça vous paraît faisable ou pas faisable? Vous êtes capable, vous sentez capable de le faire? Non, parce que ça vaut vraiment le coup, hein, sérieux. Après, il se sera donné beaucoup, n'oubliez pas. Si on prend d'ailleurs le psaume 119, il est en apprentissage permanent, le roi David. Apprentissage, formation tout au long de la vie. Agis envers moi, ton serviteur, selon ta fidélité. Apprends-moi tes prescriptions, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence. Tout seul, je ne suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut, mais demandez, vous recevrez. Quand on prend le verset d'après, il parle que de pognon, de fric. Oui, sauf que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de gagner des sous, c'est de faire ta volonté, c'est plus important que l'or, leur fin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime tes commandements. Mais dis-moi, c'est quoi tes commandements? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça ce qu'il faut retenir. Donc après, ben, finalement, les commandements, je vous en ai juste deux notions, si vous ne savez pas trop quoi faire, mais ce n'est pas exhaustif, vous pourrez demander au Seigneur. Voilà, par exemple, si on prend Dieu dise déjà, il dit, ben voilà, j'ai une mission pour vous. Hein, guérissez les malades, réveillez les morts. Réveiller, ça veut dire ressusciter. Ah ouais. Il vous sera donné beaucoup. Chassez les démons. Vous avez reçu, et faites pas, par contre, faites pas de pognon avec, hein, vous avez reçu gratuitement. Vous ne demandez pas des frais de consultation. Vous donnez gratuitement. Okay. Donc ça, c'est une des missions que le Seigneur vous confie. Votre mission, si vous l'acceptez. Oui, donc après Matthieu 25, en Matthieu 28, faites de tes gens de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec la mission là? Ou à vous l'accepter? Je ne vous demande pas combien vous en avez fait, mais est-ce que déjà vous... Oui? Bon, amen. Et quant à moi, je suis jusqu'à la fin du monde. Après, si vous avez encore un petit... Ouais, ça a l'air sympa, mais quand même, est-ce que je vais y arriver? Si vous avez l'Esprit de Christ en vous, l'Esprit de Dieu en vous, qui est-il écrit en Romains? Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ est en vous, est-ce que vous voyez la force? L'Esprit qui a ressuscité Christ, parce qu'il était bien mort, hein. Il est bien ressuscité, grâce et par l'action du Saint-Esprit. Donc si ça habite en vous, ben de quoi vous avez peur? En Jean 14, qui est bon, le testament de Christ avant de partir, il dit, ben voilà, ce qui veut, les dernières volontés, grosso modo. J'adore ce chapitre, Jean 14. Si vous faites confiance, si vous croyez ce que je vous dis, si vous avez foi en moi, vous ferez les œuvres que je fais. Vous avez vu ce qu'il a fait, Jésus? Des miracles, il y en a quoi? On ne sait pas tout, mais il y en avait quand même un sacré paquet. Et vous en ferez même de plus grandes. Il vous sera donné beaucoup. Je vous laisse avec ça, parce que franchement, moi, c'est des versets, moi, ça me bouleverse le cœur, ça me motive, et à chaque fois, je dis au Seigneur, je suis en train de me rapprocher du serviteur intérieur. Remonte-moi, s'il te plaît, vers les cinq talents, parce que là, je commence à lâcher du lest. Mais ce sont des promesses du Seigneur, ce sont des promesses de Dieu, et vraiment, appropriez-les, vous. Amen.